Ce n'est pas un secret. Notre environnement est en pleine transformation et des enjeux comme la durabilité, le climat, la diversité et l'inclusion sont sur toutes les lèvres. Et si la finance pouvait jouer un rôle de moteur de changement positif pour notre société? C'est réellement l'une de nos convictions. Afin de mieux comprendre les différents aspects de la finance durable, nous avons voulu nous entretenir avec des leaders visionnaires de la finance québécoise afin qu'ils nous fassent part de leurs idées et innovations. Je suis Alexandre Vette, associé chez Capgemini Invent. Bienvenue au balado produit en collaboration avec Finance Montréal, au fond des choses. Aujourd'hui, nous recevons Alexis Gerbeau, chef de Manuvie au Québec et chef des finances assurance collective au Canada. Manuvie collabore avec plus de 25 000 employeurs et syndicats à l'offre de régimes d'assurance collective pour plus de 5 millions de Canadiens et Canadiennes. Alexis Gerbeau nous parlera du volet social de l'ESG et de l'importance de la prévention en santé. Bonjour Alexis.
Bonjour Alexandre.
Merci d'être venu nous rejoindre aujourd'hui pour ce balado.
Moi qui te remercie.
Alexis, j'aimerais commencer peut-être par une habitude. Je pense qu'on peut aujourd'hui parler d'habitude après 18 mois d'existence de ce balado. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de qui es-tu, ton parcours, qu'est-ce qui t'a motivé en fait à prendre la carrière que tu as choisie et à jouer le rôle que tu as aujourd'hui?
Oui, moi je suis actuaire de formation. Donc au départ, j'ai étudié en mathématiques. Et pour être bien honnête, au début de l'université, je n'avais pas grande idée de ce que je voulais devenir. Donc, au départ, c'est un amour pour les mathématiques, la science, de fil en aiguille, décider de devenir actuaire. Et après ça, sur le marché du travail, développer une passion pour les affaires, la finance et plus récemment pour la santé. On va en parler beaucoup aujourd'hui.
Excellent. Et qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui, ce rôle? Est-ce que tu te sens un acteur de... Ouais. Du monde de la finance, de la santé?
De la santé en assurance collective, on va en parler aujourd'hui, mais le sentiment d'avoir un impact réel sur la santé de nos clients, de nos participants. Donc, on est une institution financière, mais de plus en plus un joueur actif dans le milieu de la santé. Donc, je suis toujours quelqu'un de chiffres, mais d'avoir un lien direct, d'avoir le sentiment qu'on a un impact direct sur quelque chose d'aussi important que la santé des Canadiens, disons que ça donne une motivation supplémentaire.
Pour se lever le matin. Ce que je trouve très intéressant, en fait, dans ce balado aujourd'hui, c'est qu'on a l'habitude, donc avec le thème de l'ESG, d'aborder finalement beaucoup les termes autour de l'environnement. Ce qui est intéressant, c'est que dans les critères ESG, on a tendance à l'oublier, mais il y a les critères effectivement environnementaux, mais aussi sociaux et de gouvernance. Et donc là, on a la chance peut-être de rentrer un peu plus dans le détail sur l'aspect social des choses. Et alors, justement, parce que finalement, dans votre rôle, à la fois ton rôle interne, mais votre rôle en tant que Manuvie, vous avez un vrai impact sur la société au sens large. Et j'aimerais commencer peut-être par, est-ce que tu pourrais nous donner un peu ton point de vue et les perspectives concernant spécifiquement la santé des Canadiens dans leur ensemble? Est-ce que c'est une situation aujourd'hui qui est unique? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus?
D'abord, comme plus grand assureur de personnes au Canada, on a un point de vue vraiment privilégié sur l'état de la santé des Canadiens. On travaille avec au-delà de 25 000 employeurs. Avec qui on collabore pour offrir des régimes d'assurance collective à environ 3,2 millions de Canadiens. Si on fait le compte des conjoints et des enfants de ces employés-là, on est au-delà de 5 millions de Canadiens à qui on offre de l'assurance collective. C'est plus que la majorité des provinces, donc ça nous donne, clairement, ça nous permet de comprendre l'évolution de la santé et la demande des soins de santé. On est aux premières loges pour voir les tendances émerger. Et vous me demandez un peu les tendances, qu'est-ce qu'on constate? Malheureusement, ce qu'on voit c'est une augmentation assez généralisée des demandes de soins de santé. La pandémie a, je crois, alimenté ou accéléré un peu le phénomène, mais les sources ou les causes profondes sont le vieillissement de la population et l'augmentation de l'incidence des maladies chroniques. Les maladies chroniques aujourd'hui représentent le deux tiers des coûts directs de soins de santé. Donc, nos données sur les demandes de règlement, sur les réclamations, démontrent une situation préoccupante et surtout pour les jeunes Canadiens. Quand on regarde la tranche d'âge 18 à 34 ans, par exemple, les congés d'invalidité chez les jeunes ont augmenté de 22 % depuis 2021 seulement. Les demandes de règlement reliées à la santé mentale, antidépresseurs, consultations avec des psychologues, ça a augmenté au-delà de 25 % depuis 2021 seulement. Les Canadiens de moins de 44 ans représentent maintenant près de 20 % des gens qui ont le diabète, alors qu'on était à 13 % en 2019. En ce cas-là, on peut penser que la sédentarité puis que la nutrition sont des facteurs. Donc, ce qu'on voit, c'est un certain déclin de la santé. Et avec ce déclin-là, puis l'augmentation de la demande, bien évidemment, on voit une incidence sur le système de santé qui est déjà un peu surchargé. Dans ce contexte-là, notre préoccupation et notre mission première comme assureur chez Manuvie, c'est d'essayer de renverser la tendance et d'être de là pour aider nos participants, nos membres, mais aussi le plus de Canadiens possible à mener une meilleure vie, à demeurer en santé, à améliorer leur santé et à vivre le plus longtemps possible.
Mais c'est très intéressant. Merci du partage. Ça interpelle, on va dire, par rapport au focus assez fort qui a été fait sur les générations plus âgées et la sensibilité, on va dire, peut-être un peu plus accrue par rapport à la crise qu'on a traversée. Mais aujourd'hui, ce que j'entends, c'est qu'il y a un peu une inversion et il faut se préoccuper de notre population un peu plus jeune. Très intéressant. Et alors, justement, moi, ce que je lis, ce que j'entends beaucoup, c'est de plus en plus, on a une approche préventive de la santé. Manuvie, établie depuis 1887, merci, a un historique donc très fort au niveau de l'assurance. Et l'assurance était jusqu'ici beaucoup perçue comme un acteur d'une réponse, on va dire, à une situation. Oui. Donc plus sur, finalement, pour un remboursement de suite à des demandes de règlement. Aujourd'hui, je comprends qu'il y a un vrai souhait de l'industrie, et spécifiquement de Manuvie, de passer dans un mode approche préventive autour de tout ça. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Tout à fait. Tu as raison. Traditionnellement, les assureurs, on est des simples payeurs de réclamations. Et ça a été le rôle traditionnel. Mais de plus en plus, notre ambition, c'est de devenir un partenaire actif de la santé de nos membres. Ça répond à un besoin et il y a vraiment, c'est une relation gagnant-gagnant où les individus, on veut tous être en santé, les employeurs veulent avoir des employés en santé et comme assureur, bien évidemment, on a un avantage à ce que les réclamations soient le plus faibles possible. Donc, ça devient vraiment notre ambition et notre critère ultime de succès maintenant, c'est vraiment d'avoir un impact sur la santé de nos participants et des Canadiens en général. Et comment on y arrive ou notre stratégie pour parvenir à ça, c'est vraiment d'avoir une approche proactive de la santé. On est à mettre un modèle axé sur la prévention, l'intervention au bon moment et avec les bons soins et le soutien lors d'une convalescence éventuelle. Donc, si je fais un sommaire, en gros, on a des bases de données énormes sur les réclamations, les demandes de règlement. On est des experts en analyse de données. Donc, on peut détecter les participants qui sont susceptibles de développer une condition médicale avant même qu'ils le sachent eux-mêmes ou qu'ils soient malades. Dans ce cas-là, on peut communiquer avec eux, essayer de leur conseiller des changements à leur mode de vie, des activités. Le cas échéant, s'il y a une intervention à avoir, bien, encore là, on est aux premières loges. On peut intervenir pour les aider à naviguer dans le système de santé qui est très complexe, comme tu le sais, leur conseiller, les informer, les conseiller sur les meilleurs traitements disponibles, dans certains cas, les aider à obtenir des rendez-vous et les accompagner pendant leur établissement.
J'aime beaucoup, c'est très intéressant parce qu'en fait, dans cette notion de prévention, comme tu l'as très bien exprimé, il y a effectivement un volet de pouvoir anticiper le changement en amont. Mais il y a aussi un volet de pouvoir anticiper le problème. Oui. Et donc, finalement, d'être beaucoup plus réactif quand le problème survient. Est-ce que tu aurais un exemple concret, peut-être, de démarche que vous mettez en œuvre?
Un exemple tiré d'un projet pilote récent qui a été un succès et qu'on va offrir à tous nos clients prochainement, c'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Donc, je personnalise un peu l'exemple. Là, c'est le garçon d'un employé qu'on couvre avec notre assurance collective. Le garçon souffre de maladies mentales, troubles de l'apprentissage, TDAH. Il a essayé plusieurs différents médicaments, cocktails de médicaments sans succès. Donc, ce qu'on fait, on peut identifier ça. On a approché la famille et offert d'explorer la solution de la médecine personnalisée. Qu'est-ce que c'est? C'est une trousse de tests génétiques, des formulaires à remplir. Et après ça, il y a un pharmacien qui analyse les résultats et identifie les médicaments, étant donné la génétique de l'individu, il va identifier les médicaments à éviter et ceux à adopter. Donc, dans l'exemple précis, l'analyse a révélé que le garçon ne prenait pas les bons médicaments, on l'a orienté vers les bons médicaments et ça a réglé la situation. Donc, ça démontre qu'avec des méthodes innovatrices, on peut guérir, on peut aussi soulager le système de santé puisque ça évite des visites à répétition chez le spécialiste, des suites d'essais-erreurs de médicaments. Donc, c'est un exemple parmi d'autres qui démontre qu'on peut avoir un impact et ça illustre notre position vraiment privilégiée comme assureur. On reçoit des, je vous ai dit, 3,2 millions d'employés, on reçoit des millions de demandes de règlement. Donc, chacune de ces demandes de règlement-là, c'est une opportunité de communiquer avec le participant au moment exact où il en a besoin et d'essayer de le conseiller, de l'aider. Donc, il s'agit d'avoir les bons outils pour le faire.
Excellent. Donc, un vrai rôle social, comme on le mentionnait plus en amont. Et alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je sais que vous avez un programme qui est nommé Vitalité. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus quel est...
Oui, Vitalité, c'est un programme du côté de l'assurance individuelle. Jusqu'à maintenant, on a parlé surtout d'assurance collective. Absolument. Si tu me permets, juste la médecine personnalisée, c'est un exemple parmi tant d'autres. Juste quelques autres exemples, parce qu'on en est très fiers. On travaille beaucoup là-dessus. Puis on est à développer notre boîte à outils de solutions pour nos membres collectifs. On va toucher à Vitalité dans deux secondes. Donc, test génétique, médecine personnalisée, c'était un exemple. Un autre exemple où on est proactif avec nos clients, on appelle ça le coaching virtuel. Donc, encore là, avec nos données, on peut identifier les participants qui sont susceptibles de bénéficier de certains conseils. On va leur offrir de les mettre en contact avec un coach virtuel qui va les informer sur les traitements disponibles, peut-être des conseils pour changer leur habitude de vie. Très anecdotique, mais nos données démontrent que les gens qui ont accepté de participer à ça, à 70 % consomment maintenant 3 portions de fruits et légumes par jour et à 80 % ont une activité physique intense à chaque semaine. Donc, un bel exemple.
C'est loin d'être anecdotique.
On parle... Revue de la médication, c'est un autre exemple. Beaucoup de des participants, si on regarde, finissent par consommer des cocktails de médicaments. Donc, dans certains cas, on va leur offrir de s'asseoir puis de regarder ça puis de voir s'il n'y aurait pas un certain ménage qu'on pourrait faire. Dernier exemple du côté collectif, la gestion des opioïdes. Vous avez beaucoup entendu, surtout dans l'ouest du pays, c'est une grave crise aux États-Unis aussi. Souvent, un nouveau patient qui a besoin d'opioïdes, il va se faire prescrire. Le médecin va prescrire des opioïdes pour une période de 18 jours, c'est la norme. Nos données révèlent que c'est souvent trop. Alors, on a une politique où on va limiter ça à 7. Et après ça, si le patient, évidemment, en a besoin, on peut retourner. Mais dans 90 % les gens n'ont pas besoin plus que 7. Donc, avec ce programme-là, on évite le risque que les gens développent une accoutumance. Donc, c'est un autre exemple où on a une approche proactive et on a un impact réel sur nos participants. Tu m'ouvrais la porte sur Vitalité. En assurance individuelle, je suis content que tu en parles, parce qu'on est vraiment un chef de file dans l'assurance comportementale. Donc, qu'est-ce que Vitalité? Vitalité, c'est le nom du programme et c'est un partenariat exclusif qu'on a avec le groupe Vitalité. L'assurance comportementale, le principe, c'est d'inciter nos assurés à adopter des modes de vie sains. Et comment on les incite? C'est en leur donnant des rabais, des points, des récompenses diverses au travers nos partenaires. Et ça influe aussi sur la prime d'assurance que les assurés paient. Donc, c'est un peu le principe psychologique assez bien connu et accepté que parfois, pour adopter des habitudes qui sont bonnes à long terme, il faut avoir une gratification immédiate. Donc, on joue là-dessus, on tire profit de ça. Donc, c'est exactement ça le principe, des points, des bonus, des avantages. Nos assurés sont encouragés donc à faire ce qui est bon pour leur santé et ils voient leur prime d'assurance baisser. Donc, c'est bon pour l'assuré. Et du point de vue de l'assureur, évidemment, des assurés en santé qui vivent plus longtemps, ça fait réduire le coût de la mortalité. Puis, ça nous permet de financer le programme et les récompenses. Donc, c'est vraiment un autre exemple où l'intérêt de nos clients est tout à fait en ligne avec notre intérêt. On en tire parti et on joue là-dessus. Donc, ce programme-là est maintenant comme une espèce d'ajout sur tous nos produits d'assurance vie. Vous achetez un produit d'assurance chez Manuvie, vous allez bénéficier de ce programme-là qui s'ajoute à votre police d'assurance. Ça rend un peu l'assurance un petit peu moins plate aussi. Personne n'est trop passionné d'acheter une assurance temporaire. Maintenant, avec l'assurance, vous avez un programme qui vous encourage de prendre des bonnes actions pour votre santé.
Mais c'est très intéressant, puis j'aime beaucoup aussi l'usage en fait que vous faites de vos bases de données, de votre expérience, de votre expertise, pour optimiser un certain nombre de choses, comme l'exemple que tu citais au niveau de la crise des opioïdes, qui vous permet d'être plus adapté dans votre réponse. Mais alors, justement, tu as mentionné ça un petit peu plus tôt, j'aimerais revenir sur cet aspect. Pourquoi est-ce que tu penses que cette approche préventive que vous avez décidé de prendre de façon très active et avec des impacts réels et positifs pour la société, pourquoi justement est-ce que tu penses que ça peut aller jusqu'à alléger le système de santé?
Ben, c'est fondamental pour alléger le système de santé. Je cite une statistique de l'Organisation mondiale de la santé. Entre 30 et 50 % de tous les cas de cancer sont évitables. Donc, la prévention, c'est vraiment la stratégie à long terme la plus rentable pour lutter contre le cancer. Quelques statistiques, sans vous assommer. Près de la moitié des cancers, on parle de cancer du sein, du côlon, de la prostate. Dans le cas du cancer du sein, toutes les études démontrent que les femmes qui passent un test de dépistage régulièrement, la mortalité baisse de 20 à 40 le cas du diabète, 3 millions de Canadiens sont atteints de diabète. 200 000 nouveaux Canadiens sont diagnostiqués chaque année. Plus tôt, je mentionnais que les jeunes de plus en plus étaient atteints. Et 84 % des gens qui sont atteints de prédiabète ne le savent pas. Donc, pour éviter tout ce qui vient avec le diabète, donc augmentation accrue du risque de maladies cardiovasculaires, accidents vasculaires cérébrales, il s'agit de dépister et que ces gens-là changent leur mode de vie de façon préventive. Donc, ça permet d'éviter tout ce qui suit si on ne le traite pas de façon adéquate. Donc, les gouvernements, évidemment, qui sont soucieux de leurs finances, ont compris depuis longtemps l'importance de la prévention et ont investi dans la prévention. On est bien content de voir ça et on pense que nous aussi, on a un rôle à jouer. Je vous donne un dernier exemple sur la prévention. Notre filiale John & Koch de Manuvie aux États-Unis, c'est le nom sur lequel on exerce nos activités, est devenue la première assureur au monde dans le cadre du programme Vitalité à offrir à leurs clients des tests de détection précoce, le test Galerie, qui est un test qui détecte jusqu'à 50 types de cancers. Et sur les 50, il y en a 45 qui sont des cancers qui ne font pas partie des tests de dépistage usuels recommandés. Donc, on couvre beaucoup plus large la détection de cancer. Et en plus, ça peut identifier exactement où se loge le cancer, ce qui facilite le traitement. Donc, c'était un pilote aux États-Unis. Ce test-là n'a pas été approuvé au Canada encore. Il le sera probablement un jour. Donc, c'est un autre exemple d'un élément qui pourrait se rajouter à notre boîte à outils pour aider les Canadiens, nos clients à vivre en santé.
Ben bravo, bravo et merci. Je pense qu'on a tous besoin effectivement d'alléger au maximum ce système de santé et d'autant plus, comme on l'a mentionné un peu plus tôt, que même les jeunes aujourd'hui, nos jeunes auditeurs sont concernés. Et donc bravo pour tout ce qui est fait. Alors justement, éloignons-nous un petit peu de manière un peu plus large. Quelles sont selon toi les tendances en matière de santé que tu observes chez les Canadiens et qu'est-ce qui alimente les tendances en question?
La pandémie, je crois, a alimenté un changement d'attente et une certaine acceptation de certains types de soins. Donc, la pandémie a eu un impact négatif sur la santé, mais a aussi créé un environnement avec des nouvelles possibilités. Donc, je pense entre autres à la médecine à distance, la médecine virtuelle qui est des surprofits des outils numériques. Donc, on a des sondages, en fait, c'est des sondages faits par Avantage Canada qui révèlent que, bon, du point de vue du client, le nombre de participants à des régimes collectifs qui ont utilisé de la médecine virtuelle est passé de 13 % à 24 % entre 2021 et 2022. Donc, clairement, la pandémie a eu un impact et aussi les fournisseurs de soins se sont plus ouverts à cette pratique-là. Et bon, 80 % des participants ont apprécié leur expérience et ont trouvé que les soins qu'ils ont reçus étaient de qualité. Puis pour arriver à 24 % également, ça suggère que de plus en plus, les patients sont prêts à utiliser la médecine virtuelle pour d'autres actes que la simple visite chez le médecin de famille. Du point de vue des médecins et des traitants, 94 % des 2000 médecins interrogés utilisent la médecine virtuelle et près de 80 % sont d'accord pour dire que la qualité des soins est là. Quand on regarde vers le futur, encore là du côté des médecins, 42 % comptent maintenir leur niveau actuel de soins numériques, puis il y en a 22 % qui veulent en faire encore plus. Donc, ça suggère qu'il n'y aura pas de retour en arrière et que la tendance est là pour continuer. Et nous, on voit ça de façon positive parce que pour nous, c'est une façon de faire évoluer la façon de prodiguer des soins puis de prodiguer des soins plus rapidement puis à plus de personnes.
Et finalement également d'alléger le système de santé.
Ça contribue. Exactement.
Sur un autre aspect, j'ai lu récemment que Manuvie s'était associé à Cleveland Clinic.
Oui.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Tout à fait. D'abord, Cleveland Clinic, qui n'est pas le nom le plus connu au Québec, mais c'est un grand réseau d'hôpitaux et de cliniques de classe mondiale fondé il y a plus de 100 ans. Je vous donne en mille à Cleveland. donc, c'est très prestigieux. Il se classe dans les premières positions d'à peu près tous les palmarès de réseaux d'hôpitaux. Alors, on s'est associé à eux vers la fin 2022. On est vraiment très fiers. Pour nous, ça représente un jalon dans la réalisation de notre ambition de devenir un partenaire de santé de nos participants. Nos équipes ont déjà commencé à travailler avec leur équipe d'experts, de spécialistes. L'idée est de tirer profit de leur expertise, de leur recherche dans la conception de nos services, de nos produits, de nos solutions. On planifie également un peu combiner les équipes et de développer des nouvelles recherches conjointes avec eux, toujours dans le but d'en faire profiter nos clients. Donc, on est très excité de travailler avec Cleveland Clinic.
Excellent, beau développement. Alors justement, on parle de développement, peut-être pour conclure sur... déjà, merci de ce partage assez exhaustif du rôle de Manuvie et de ce positionnement. Projetons-nous sur le futur maintenant. Comment est-ce que tu vois les prochaines étapes? C'est quoi l'évolution? Sur quoi vous allez vous concentrer à la fois dans la prochaine année, mais peut-être aussi dans les années ultérieures?
Ben, c'est de rester concentré sur la mission que j'ai décrite aujourd'hui. Donc, de continuer à bâtir notre boîte à outils pour être capable d'avoir une solution pertinente pour le plus de conditions possibles. En 2023, ce qui s'en vient, par exemple, c'est de traiter les troubles du sommeil qui sont reliés avec un très, très grand nombre d'autres troubles, autant mentaux que physiques, de traiter la condition de diabète. Donc, c'est de construire notre boîte à outils, beaucoup développer nos solutions numériques pour communiquer et entrer en contact avec nos membres. Donc, c'est une chose d'avoir les données puis les analyses sophistiquées pour identifier les besoins. C'est une chose d'avoir les outils dans ta boîte à outils, mais il faut être capable de communiquer puis de susciter l'adoption chez les membres. Et pour ça, il faut avoir des outils. On connaît les attentes des consommateurs aujourd'hui. Donc, il faut avoir des façons intelligentes, agiles et faciles d'entrer en communication et d'échanger avec nos clients. Donc, l'aspect numérique est très important aussi. J'ai pas mentionné l'analyse de données. Donc, c'est analyse de données, être capable d'identifier les patterns et de trouver d'identifier les besoins chez nos participants. La boîte à outils, d'avoir les solutions pour chacun des types de conditions médicales et les outils numériques.
Donc, ça vient avec beaucoup d'innovation, en fait, finalement.
Oui, c'est ça qui rend le travail intéressant.
Alors, justement, tu mentionnais l'analyse de données. Est-ce que, quand on pense à analyse de données, on pense notamment à l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est un domaine que vous exploitez aujourd'hui?
Oui, tout à fait. On a des équipes entièrement consacrées à ça chez nous. Je peux donner un exemple où on est encore, une fois, le chef de file, la tarification du côté des produits d'assurance individuelle. Traditionnellement, pour acheter une police d'assurance, vous remplissez des longs formulaires, vous avez beaucoup de questions. Des fois, c'est un petit peu intrusif. Il faut faire des tests biomédical. Et après ça, vous aviez des humains qui prenaient des fois des jours pour analyser les questions et tout. De plus en plus, ça, c'est un exemple où on a utilisé depuis 2018 déjà, mais on continue d'améliorer le modèle et d'étendre son utilisation. On utilise l'intelligence artificielle pour faire la souscription et l'analyse de ces applications-là. Donc, l'avantage pour le client, c'est qu'au lieu d'attendre une semaine pour avoir une réponse et savoir si on est accepté ou pas, dans certains cas, ça peut prendre... ça se compte en heures ou en minutes même, parce que tout est automatique. On remplit les questions et voilà, l'algorithme a tout analysé et nous donne la réponse. Donc, c'est un exemple, mais oui, c'est un outil, une science qu'on essaie de mettre à profit le plus possible.
À bon escient.
À bon escient, toujours.
Excellent. Alexis, merci beaucoup pour ton partage aujourd'hui. Moi, j'aimerais terminer peut-être avec une question assez classique que l'on pose à l'ensemble des participants, oui, qui est à l'intention de nos plus jeunes auditeurs. Par ton recul, par ton expertise, ton expérience aujourd'hui, qu'est-ce que tu enverrais comme message un petit peu à un jeune d'aujourd'hui qu'est-ce qu'il devrait mettre de l'avant? Quel est l'outil qu'il devrait développer pour mieux affronter les défis?
Je dirais, si je regarde les gens, je pense un peu à moi-même et les gens autour de moi que je vois grandir chez nous, je dirais la passion est d'avoir des intérêts le plus large possible. Donc, bon, chez nous, on est une institution financière, donc des actuaires, des comptables, des gens différents. Mais les gens qui vont être curieux et qui vont s'intéresser à plein de domaines un peu plus larges que ce dans quoi ils sont des spécialistes et d'avoir la passion de faire les liens avec leur travail par expérience, c'est ce qui apporte beaucoup de valeur dans une organisation, ce qui est un ingrédient important de succès chez les jeunes.
Donc, il faut oser.
Oser, être curieux.
Alexis, merci beaucoup. C'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui.
C'était mon plaisir. Merci beaucoup, Alexandre.
C'est très intéressant d'en apprendre davantage sur le volet social de l'ESG. La prévention est définitivement la clé pour améliorer la santé de la population canadienne et québécoise. On se retrouve dans notre prochain épisode où je m'entretiendrai avec Jérôme Nix, vice-président exécutif de BDC. Allez jeter un coup d'œil à nos épisodes précédents pour en apprendre plus sur l'ESG dans notre écosystème financier.